Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive d'aujourd'hui. On va se concentrer sur les blessures sportives,
Ah.
mais pas n'importe lesquelles.
Oui.
On plonge tête première dans le monde complexe de l'épaule.
Oui.
Imaginez le tennis, la natation, le baseball, tous ces sports qui mettent nos épaules à rude épreuve.
Tout à fait. L'épaule, c'est un chef-d'œuvre de la nature, avec ses articulations, ses muscles, ses tendons. Mais toute cette complexité la rend aussi très vulnérable.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on va décortiquer trois blessures courantes, la tendinite de la coiffe des rotateurs,
Oui.
la bursite subacromiale avec syndrome d'impingement,
D'accord.
et la fameuse épaule gelée, la capsulite rétractile. On va comprendre comment les éviter, les reconnaître et surtout les soigner.
L'idée est d'avoir toutes les cartes en main pour prendre soin de ses épaules,
Ouais.
que l'on soit sportif, amateur ou professionnel.
Alors, on commence par la tendinite de la coiffe des rotateurs.
OK.
Déjà, pour ceux qui ne sont pas experts en anatomie, c'est quoi exactement cette coiffe?
Oui?
Et pourquoi est-elle si importante?
Imaginez la coiffe des rotateurs comme un groupe de quatre muscles, des sortes de cordes qui maintiennent la tête de l'humérus, l'os du bras, bien en place dans l'épaule. Ils permettent à la fois la stabilité et une grande liberté de mouvement.
Ah, ok, je vois. Et quand on parle de tendinite, c'est que ces cordes sont irritées, enflammées. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà ressenti cette douleur sourde après un effort? C'est peut-être le signe d'une tendinite qui s'installe.
Exactement. Les mouvements répétitifs. Les surcharges, tout ça peut créer des micro-traumatismes sur ces tendons. Et c'est là que l'inflammation s'installe.
Donc, si on est un adepte du tennis, de la natation, ou qu'on lance des balles au baseball, on est plus à risque.
Tout à fait. Ces sports sollicitent énormément les épaules, d'où l'importance d'être attentif aux signaux de son corps.
Et concrètement, quels sont les symptômes? Comment savoir si on a affaire à une tendinite de la coiffe?
La douleur est le symptôme principal, bien sûr. Elle peut être intense ou sourde, et surtout elle s'aggrave quand on bouge le bras, qu'on l'élève ou qu'on le fait tourner.
Oui.
Souvent, on ressent aussi une certaine faiblesse musculaire et une raideur au niveau de l'épaule.
Donc si on sent une gêne,
Ouais.
on consulte un médecin.
Absolument. Lui seul pourra poser un diagnostic précis. Il va examiner l'épaule, évaluer la douleur, la mobilité et la force musculaire. Si besoin, il prescrira des examens complémentaires comme une échographie ou une IRM pour confirmer le diagnostic et voir l'étendue des dégâts, si je puis dire.
Et parlons maintenant des traitements. On a entendu parler de choses assez révolutionnaires comme la thérapie au laser.
Oui,
C'est de la science-fiction ou c'est une réalité?
c'est bien réel et de plus en plus utilisé. Imaginez un faisceau laser qui cible précisément la zone enflammée,
D'accord.
stimulant la régénération cellulaire et réduisant l'inflammation au niveau du tendon.
C'est un peu comme un coup de baguette magique pour accélérer la guérison. En quelque sorte, le laser favorise un environnement optimal pour que le tendon se répare naturellement et plus rapidement.
C'est incroyable. Et qu'en est-il des ondes de choc?
Oui.
J'avoue que le nom me fait un peu peur.
Rassurez-vous, la thérapie par onde de choc est non invasive et indolore.
D'accord.
On envoie des ondes acoustiques sur la zone douloureuse,
OK.
ce qui provoque des micro-traumatismes contrôlés.
Des micro-traumatismes.
Oui.
Mais à quoi ça sert de blesser encore plus ce tendon?
C'est là que c'est ingénieux. Ces micro-traumatismes vont en fait réveiller le processus de guérison.
Ah.
Il stimule la production de collagène essentiel à la réparation des tissus. C'est un peu le principe de détruire pour mieux reconstruire, mais à l'échelle microscopique.
Ok, je comprends mieux. Et en plus de ça, est-ce que les ondes de choc soulagent la douleur? Parce qu'on ne va pas se mentir, la douleur à l'épaule, c'est assez invalidant.
Oui, absolument. En diminuant l'inflammation, on diminue aussi la douleur.
Oui.
Les patients ressentent un soulagement notable après quelques séances. Et la bonne vieille ostéopathie, elle a encore sa place dans tout ça.
Bien sûr. L'ostéopathie est précieuse pour rééquilibrer l'épaule. L'ostéopathe utilise des techniques manuelles pour relâcher les tensions musculaires, réaligner l'articulation
D'accord.
et redonner de la mobilité à l'épaule.
J'ai entendu parler d'un outil assez étonnant, utilisé en ostéopathie, le percuteur de précision.
Oui.
C'est quoi exactement?
Imaginez un mini marteau piqueur, mais ultra précis et contrôlé, qui envoie des impulsions mécaniques ciblées sur les muscles et les tendons.
Un mini marteau piqueur,
Ouais.
c'est pas un peu violent?
Pas du tout. C'est indolore et très efficace pour libérer les tensions, détendre les muscles et relancer la circulation sanguine.
Et en quoi c'est intéressant pour la tendinite?
Le percuteur de précision permet d'atteindre les tissus en profondeur, là où les mains ne peuvent pas toujours aller. Les résultats sont souvent rapides et durables, avec un soulagement immédiat de la douleur et une amélioration de la mobilité.
On a donc une panoplie d'options pour traiter la tendinite, le laser, les ondes de choc, l'ostéopathie, avec son percuteur de précision.
Exactement. On parle d'approche intégrée, on combine différentes techniques pour une prise en charge complète et personnalisée.
Et justement, parlons maintenant d'une autre blessure fréquente chez les sportifs, la bursite subacromiale et le syndrome d'impingement.
D'accord. Pour bien comprendre, imaginez une petite poche remplie de liquide, la bourse subacromiale située entre l'acromion, l'extrémité de l'omoplate et les tendons de la coiffe des rotateurs. Cette bourse agit comme un coussin qui permet aux tendons de glisser en douceur sous l'acromion quand on bouge le bras.
C'est comme un lubrifiant naturel pour éviter les frottements.
Exactement. Mais quand cette bourse s'irrite et s'enflamme, on parle de bursite subacromiale.
Et le syndrome d'impingement, c'est lié à cette inflammation.
Oui, souvent. L'inflammation de la bourse peut créer un conflit, un pincement entre l'acromion et les tendons dans la coiffe des rotateurs.
On appelle ça le syndrome d'impingement ou syndrome de conflit sous-acromial. Imaginez par exemple si vous soulevez des poids lourds au-dessus de votre tête de manière répétée. Cela peut provoquer un frottement excessif de la bourse contre l'acromion.
Ouais.
Et c'est l'inflammation assurée.
D'accord, donc la bursite et l'impingement, c'est souvent lié.
Exactement. Et les symptômes peuvent être assez similaires à ceux de la tendinite, douleur, raideur, faiblesse musculaire.
Ouais.
Mais attention, le syndrome d'impingement peut aussi avoir d'autres causes, comme une anomalie de l'acromion des muscles de la coiffe trop faible ou une instabilité de l'épaule.
Donc, si on a mal à l'épaule, il est important de consulter pour avoir un diagnostic précis,
oui,
pour savoir à quoi on a affaire.
Tout à fait. Le médecin, grâce à l'examen clinique et aux examens d'imagerie, va pouvoir déterminer la cause exacte de la douleur et proposer le traitement le plus adapté.
Et justement, parlons des traitements pour la bursite et l'impingement. Est-ce qu'on retrouve les mêmes options que pour la tendinite? Oui, en partie. Le laser et les ondes de choc sont très efficaces pour calmer l'inflammation et aider les tissus à se réparer.
D'accord.
Mais attention, le protocole de traitement sera adapté en fonction de la pathologie et de la sévérité des symptômes.
Je veux dire, pouvez-vous nous donner un exemple?
Par exemple, pour la bursite, on va cibler le laser directement sur la bourse enflammée. Pour le syndrome d'impingement, on va traiter la zone de conflit entre l'acromion et les tendons.
Donc, même si les outils sont les mêmes, leur utilisation est différente.
Exactement. On ne traite pas une bursite comme on traite une tendinite, même si les symptômes peuvent se ressembler.
Et l'ostéopathie, elle a sa place dans le traitement de la bursite et de l'impingement.
Absolument. L'ostéopathe va travailler sur la mobilité de l'épaule, libérer les tensions, corriger les dysfonctions articulaires,
oui,
et redonner de l'amplitude de mouvement. Et bien sûr, le percuteur de précision peut être utilisé pour détendre les muscles contracturés autour de l'épaule, ce qui diminue la pression sur la bourse et les tendons.
On retrouve encore une fois l'importance de cette approche globale qui prend en compte tous les aspects de la blessure. Passons maintenant à la troisième blessure qu'on va explorer aujourd'hui, la capsulite rétractile, plus connue sous le nom d'épaule gelée. Déjà, pourquoi ce nom d'épaule gelée? Qu'est-ce qui se passe dans l'articulation?
Eh bien, l'épaule gelée, c'est une affection qui fige littéralement l'épaule. On a une raideur progressive accompagnée de douleurs et d'une limitation importante des mouvements.
On imagine la frustration de ne plus pouvoir lever le bras, faire les mouvements simples du quotidien.
Exactement. La capsulite rétractile est souvent liée à une inflammation chronique de la capsule articulaire, cette enveloppe fibreuse qui entoure l'articulation de l'épaule.
Oui.
Imaginez que cette capsule devient rigide, épaisse, empêchant l'articulation de bouger librement. C'est un peu comme si l'épaule était prise dans un étau.
Et qu'est-ce qui déclenche cette inflammation de la capsule?
Les causes ne sont pas toujours claires, mais ça peut être lié à un traumatisme, une immobilisation, prolonger une chirurgie ou même certaines maladies comme le diabète.
Donc si on ne bouge pas son épaule pendant un certain temps, on risque de développer une capsulite rétractile.
C'est un risque, oui. Le manque de mouvement peut favoriser la fibrose de la capsule, c'est-à-dire son épaississement et sa rigidification.
Quels sont les symptômes typiques de l'épaule gelée? Est-ce qu'on peut la confondre avec une tendinite ou une bursite?
Au début, la douleur est souvent intense, surtout la nuit. Puis la douleur diminue, mais la raideur s'installe progressivement, rendant les mouvements de plus en plus difficiles. C'est une évolution assez caractéristique qui permet de distinguer l'épaule gelée des autres pathologies de l'épaule.
Et comment traite-t-on l'épaule gelée? Est-ce qu'on utilise les mêmes armes que pour la tendinite et la bursite?
L'approche est un peu différente. Ici, l'objectif principal est de restaurer la mobilité de l'épaule en douceur.
On va privilégier des techniques manuelles douces, des mobilisations articulaires, des étirements et des techniques de relâchement myofascial.
Donc, on évite les techniques trop agressives.
Exactement. Il faut y aller progressivement avec patience et régularité pour redonner de la souplesse à l'épaule.
Et le liser, est-ce qu'il a un rôle à jouer dans le traitement de l'épaule gelée?
Oui, il peut être utilisé en complément des techniques manuelles pour réduire l'inflammation et favoriser la cicatrisation de la capsule.
On parle beaucoup de traitements physiques, mais est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau de l'alimentation ou des compléments alimentaires pour aider à la guérison?
Bien sûr. La naturopathie peut apporter un soutien précieux. Une alimentation anti-inflammatoire riche en fruits, légumes, oméga-3 et antioxydants va aider à calmer l'inflammation et à soutenir la régénération des tissus.
Et est-ce qu'il y a des compléments alimentaires spécifiques que vous recommandez pour les problèmes d'épaule?
Oui, certains compléments peuvent être bénéfiques comme la glucosamine, la chondroïtine, le curcuma ou les oméga-3.
Mais attention, il est important de demander conseil à un professionnel de santé avant de prendre quoi que ce soit.
C'est un excellent conseil. On arrive à la fin de cette première partie de notre deep dive sur les blessures de l'épaule. On a vu que la tendinite de la coiffe des rotateurs, la bursite subacromiale avec syndrome d'impingement et l'épaule gelée sont des blessures fréquentes chez les sportifs.
Oui.
Mais qu'il existe des solutions efficaces pour les traiter.
Exactement. L'important, c'est de ne pas ignorer la douleur et de consulter rapidement un professionnel de santé.
Oui.
Un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée permettent d'éviter les complications et de retrouver une épaule en pleine forme.
On se retrouve dans la deuxième partie pour explorer les innovations technologiques et les défis cliniques dans le traitement des blessures de l'épaule. Restez avec nous.
Avec plaisir.
De retour pour la deuxième partie de notre exploration des blessures de l'épaule. Juste avant la pause, on parlait de l'importance d'une approche intégrée qui combine différentes techniques. Maintenant, j'aimerais vous emmener faire un tour du côté des innovations technologiques. C'est assez fascinant de voir comment la technologie révolutionne la prise en charge de ces blessures.
Ah oui, ça me passionne. J'ai lu des articles sur des technologies incroyables capables de diagnostiquer et de traiter les blessures de l'épaule avec une précision chirurgicale. On se croirait dans un film de science-fiction.
C'est vrai qu'on a fait d'énormes progrès. L'une des avancées les plus spectaculaires, c'est l'imagerie médicale. Les échographies et les IRM de nouvelle génération nous permettent de visualiser l'intérieur de l'épaule avec un niveau de détail incroyable.
On a l'impression d'avoir des yeux bioniques qui peuvent zoomer sur les moindres recoins de l'articulation.
C'est tout à fait ça. Grâce à ces images ultra précises, les médecins peuvent comprendre la nature exacte de la blessure, son étendue, et choisir le traitement le plus adapté.
Et au-delà de l'imagerie, est-ce qu'il y a d'autres technologies qui sont utilisées pour soigner les épaules?
Absolument. La thérapie au laser dont on a parlé tout à l'heure a elle aussi bénéficié d'innovations majeures. Les lasers actuels sont plus puissants, plus précis et surtout plus sûrs.
Qu'est-ce qui différencie des anciens lasers? En quoi sont-ils meilleurs?
Imaginez une lumière laser ultra concentré, qui cible la zone à traiter avec une précision millimétrique. L'énergie est délivrée de manière optimale, ce qui accélère la guérison et soulage la douleur plus efficacement. Et bien sûr, les systèmes de sécurité sont beaucoup plus sophistiqués, ce qui minimise les risques d'effets secondaires.
C'est rassurant. Et du côté des ondes de choc, est-ce qu'il y a eu des progrès aussi?
Oui, bien sûr. Les appareils sont devenus plus compacts, plus ergonomiques, plus faciles à utiliser. On a aussi affiné les protocoles de traitement pour optimiser leur efficacité et garantir la sécurité des patients.
Tout ça est vraiment encourageant. Mais j'imagine que malgré toutes ces avancées technologiques, il reste encore des défis à relever dans le traitement des blessures de l'épaule.
Bien sûr, la technologie ne fait pas tout. L'un des défis majeurs, c'est la personnalisation des traitements. Chaque patient est unique. Sa blessure est unique, ses besoins sont uniques. Il faut donc adapter le traitement à chaque individu en tenant compte de son âge, de son état de santé général, de la gravité de la blessure, de son niveau d'activité et bien sûr de ses objectifs.
C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, n'est-ce pas?
Exactement. Et c'est un domaine en pleine expansion grâce au progrès de la génétique, de l'imagerie médicale et même de l'intelligence artificielle. Le but est de proposer des traitements sur mesure qui prennent en compte toutes les spécificités de chaque patient.
C'est l'avenir de la médecine, ça. Mais concrètement, comment on personnalise un traitement pour une blessure de l'épaule?
Tout commence par une évaluation approfondie du patient. On réalise un examen clinique complet, on analyse les images médicales, on peut même faire des tests génétiques ou biochimiques. Ensuite, le médecin élabore un plan de traitement individualisé en combinant différentes techniques et en ajustant les paramètres de chaque technique en fonction des besoins spécifiques du patient. C'est comme un puzzle où chaque pièce doit s'emboîter parfaitement.
Et j'imagine que tout ça demande une collaboration étroite entre les différents professionnels de santé.
Absolument. La prise en charge des blessures de l'épaule est souvent pluridisciplinaire. On a les médecins du sport, les chirurgiens, orthopédistes, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les naturopathes. C'est une véritable équipe qui se mobilise autour du patient.
Une vraie Dream Team pour soigner nos épaules.
Oui, et la communication entre les différents intervenants est primordiale pour que le traitement soit cohérent et efficace. C'est un travail d'équipe.
Parlons maintenant des défis cliniques dans le traitement des blessures de l'épaule. À quelles difficultés sont confrontés les médecins et les thérapeutes?
Eh bien, l'un des principaux défis, c'est la complexité de l'anatomie de l'épaule. On en a parlé au début de cette émission. L'épaule, c'est une articulation très mobile avec une multitude de muscles, de tendons, de ligaments, de bourses. Tout ça rend le diagnostic et le traitement plus délicat.
C'est comme un mécanisme d'horlogerie avec des pièces minuscules et interconnectées.
Exactement. Et parfois, les pièces sont endommagées ou mal alignées, ce qui complique encore la tâche.
Et en plus de la complexité anatomique, y a-t-il d'autres facteurs qui rendent le traitement difficile?
Oui, la douleur chronique est un problème fréquent. Beaucoup de patients souffrent de douleurs persistantes à l'épaule, malgré les traitements. Ces douleurs peuvent avoir un impact énorme sur la qualité de vie en limitant les activités quotidiennes et en créant un stress psychologique important. C'est un cercle vicieux, la douleur limite les mouvements, ce qui aggrave la douleur.
C'est un vrai piège. Comment on peut briser ce cercle vicieux?
Il faut une approche globale qui prend en compte tous les aspects de la douleur. On va combiner des traitements médicaux, des thérapies physiques et des approches psychologiques.
Et du côté des traitements médicaux, est-ce qu'il existe des médicaments spécifiques pour les blessures de l'épaule?
Oui, bien sûr. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS, sont souvent prescrits pour soulager la douleur et l'inflammation. Dans certains cas, on peut aussi faire des infiltrations de corticoïdes pour calmer l'inflammation localement. Mais attention, les médicaments ne font pas tout. Il est essentiel de les associer à des thérapies physiques pour restaurer la mobilité et la force de l'épaule.
Et la chirurgie, est-ce qu'on y a souvent recours pour les blessures de l'épaule?
La chirurgie est réservée aux cas les plus graves quand les autres traitements n'ont pas donné des résultats satisfaisants. Par exemple, en cas de rupture massive de la coiffe des rotateurs de luxation récidivante de l'épaule ou d'arthrose sévère, la chirurgie peut être nécessaire pour réparer les structures endommagées et redonner de la fonctionnalité à l'épaule.
Mais la chirurgie, ça reste un acte lourd avec des risques et une période de récupération assez longue.
Oui, c'est pourquoi on privilégie toujours les traitements non chirurgicaux dans un premier pas. La chirurgie, c'est le dernier recours.
Avant de passer à la dernière partie de notre émission, j'aimerais aborder la question de la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour éviter de se blesser à l'épaule?
La prévention, c'est primordial. Il y a plein de choses simples à faire pour protéger nos épaules et préserver leur mobilité.
Donnez-nous quelques conseils pratiques.
Avec plaisir. Tout d'abord, l'échauffement avant chaque activité physique est essentiel. On fait des rotations des épaules, on étire les muscles, la poitrine du dos des bras.
Même pour une petite séance de jogging ou de yoga.
Oui, même pour des activités douces. L'échauffement prépare les muscles et les articulations à l'effort, ce qui réduit le risque de blessure. Et après l'effort, on n'oublie pas les étirements.
Les étirements après l'effort, c'est important.
Oui, ça permet de relâcher les tensions musculaires et d'améliorer la flexibilité. On les fait en douceur, sans forcer et on respire bien.
D'autres conseils?
Oui, il faut renforcer les muscles de l'épaule et du tronc. Des muscles forts et stables protègent l'articulation des blessures. On peut faire des exercices de musculation avec des poids légers, des élastiques ou simplement avec le poids du corps.
Et pour ceux qui passent des heures devant l'ordinateur, y a-t-il des exercices spécifiques pour éviter les tensions dans les épaules?
Oui, il faut faire des pauses régulières pour se lever, s'étirer et bouger les épaules. On peut faire des rotations, des haussements d'épaules, des étirements des bras et des trapèzes.
Et pour les sportifs, des recommandations particulières?
Les sportifs doivent être attentifs à leur technique, surtout dans les sports qui sollicitent beaucoup les épaules, comme le tennis, le volleyball, la natation ou le golf. Une mauvaise technique peut provoquer des surcharges et des micro-traumatismes qui favorisent les blessures. Il est donc important de se faire encadrer par un coach qualifié pour apprendre les bons gestes et éviter les erreurs techniques.
Et si on sent une douleur à l'épaule, que faut-il faire?
Il ne faut surtout pas ignorer la douleur. Consultez rapidement un professionnel de santé. Plus on attend, plus la blessure risque de s'aggraver et de devenir chronique. Un diagnostic précoce et un traitement adapté, c'est la clé d'une guérison rapide et complète.
Merci pour ces précieux conseils. On se retrouve dans la troisième et dernière partie de notre émission pour parler des perspectives d'avenir dans le traitement des blessures de l'épaule. Restez avec nous. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de notre deep dive sur les blessures de l'épaule. On a exploré les pathologies courantes, les traitements innovants, la technologie. Maintenant, j'ai envie de rêver un peu. Dites-moi quelles sont les perspectives d'avenir dans ce domaine. Qu'est-ce qui nous attend?
L'avenir s'annonce vraiment passionnant. On assiste à une véritable révolution dans le traitement des blessures de l'épaule avec des innovations qui visent à améliorer l'efficacité, la précision et la personnalisation des soins. Et l'une des tendances les plus prometteuses, c'est la médecine régénérative.
La médecine régénérative. J'en ai entendu parler, mais pour être honnête, je ne suis pas sûr de bien saisir le concept. C'est quoi exactement ? On parle de science-fiction ou de réalité ?
C'est une réalité, et une réalité qui change la donne. La médecine régénérative, c'est une approche qui vise à booster la capacité naturelle du corps à se réparer, à régénérer les tissus endommagés. Pour les blessures de l'épaule, ça veut dire aider les tendons, les ligaments, les cartilages et les muscles à se reconstruire, à guérir plus vite et mieux.
Waouh, c'est incroyable! Et concrètement, comment ça se passe? Quelles sont les techniques utilisées? On s'imagine des manipulations génétiques, des choses très futuristes.
Pas forcément.
Il existe plusieurs techniques prometteuses, comme l'injection de plasma riche en plaquettes, PRP, l'utilisation de cellules souches et l'application de facteurs de croissance.
Le PRP, ça me dit quelque chose. C'est une technique qui utilise les propres ressources du corps pour accélérer la guérison, c'est ça?
Exactement. Le PRP, c'est un concentré de plaquettes sanguines, ces petites cellules qui contiennent des trésors de facteurs de croissance. Et ces facteurs de croissance, c'est eux qui orchestrent la réparation des tissus. En injectant du PRP dans la zone blessée, on stimule la cicatrisation et on donne un coup de pouce à la régénération des tissus.
Ok, donc le PRP, c'est un peu comme un accélérateur de guérison naturelle. Et les cellules souches, elles entrent en jeu comment?
Les cellules souches, ce sont des cellules vierges qui ont un super pouvoir. Elles peuvent se transformer en différents types de cellules, par exemple des cellules musculaires, des cellules tendineuses ou des cellules cartilagineuses. En les injectant dans l'épaule blessée, on stimule la production de nouveaux tissus sains et on favorise la réparation des structures abîmées.
Donc on injecte des cellules passe-partout qui vont se spécialiser et reconstruire les tissus endommagés. C'est comme donner au corps les briques et le ciment pour se réparer.
C'est une très bonne image. La médecine régénérative est encore en développement, mais elle ouvre des perspectives incroyables pour le traitement des blessures de l'épaule et plus largement pour la médecine du sport.
Et vous avez parlé des facteurs de croissance tout à l'heure. Quel est leur rôle dans ce grand chantier de la régénération?
Les facteurs de croissance, ce sont des protéines qui donnent des ordres aux cellules. Multipliez-vous, réparez les tissus. Ils jouent un rôle essentiel dans la reconstruction. On peut utiliser des facteurs de croissance synthétiques fabriqués en laboratoire ou des facteurs de croissance naturels extraits du sang du patient pour accélérer la guérison des blessures de l'épaule.
C'est fascinant de voir comment on arrive à manipuler ces mécanismes biologiques pour aider le corps à se réparer. Et au-delà de la médecine régénérative, est-ce qu'il y a d'autres innovations qui vont bouleverser le traitement des blessures de l'épaule?
Oh oui, absolument. L'intelligence artificielle, IAVA, est en train de révolutionner la médecine du sport. Et le traitement des blessures de l'épaule ne fait pas exception.
L'IA, c'est un peu un mot valise, on l'entend partout, mais concrètement, comment l'IA peut-elle nous aider à soigner les épaules?
L'IA peut faire des choses incroyables. Elle peut analyser des images médicales, prédire le risque blessure, personnaliser les programmes de rééducation et même améliorer le suivi des patients.
C'est fou! Donnez-nous des exemples concrets. Comment l'IA s'applique-t-elle au traitement des blessures de l'épaule?
Par exemple, l'IA peut analyser des images d'IRM ou d'échographie et détecter des anomalies subtiles qui pourraient échapper à l'œil humain même le plus exercé. Elle peut aussi créer des modèles 3D de l'épaule du patient, ce qui permet de simuler les mouvements et de repérer les zones de stress ou de tension.
Donc l'IA peut aider à poser un diagnostic plus précis et à mieux comprendre les causes de la blessure.
Exactement. Mais ce n'est pas tout. L'IA peut aussi personnaliser les programmes de rééducation en fonction des caractéristiques de chaque patient.
Comment ça, personnaliser? L'IA devient coach sportif.
En quelque sorte. Grâce à l'IA, on peut créer des programmes d'exercice sur mesure qui tiennent compte de l'âge du patient, de la condition physique, de la nature de sa blessure et de ses objectifs. Et ces programmes peuvent être ajustés en temps réel en fonction des progrès du patient.
C'est comme avoir un coach virtuel intelligent qui nous guide et nous motive tout au long de notre rééducation.
Exactement. Et l'IA peut même améliorer le suivi des patients. Grâce aux capteurs connectés et aux applications mobiles, on peut collecter des données en temps réel sur la douleur, la mobilité, la force musculaire et l'activité physique du patient. Ces données sont analysées par l'IA, ce qui permet de détecter les problèmes potentiels et d'adapter le traitement si nécessaire. C'est une approche hyper personnalisée et proactive. Et j'imagine que ça augmente les chances de guérison et ça limite le risque de rechute.
Tout à fait. L'utilisation de l'IA dans le traitement des blessures de l'épaule n'en est qu'à ses débuts, mais elle a un potentiel énorme pour révolutionner la prise en charge de ces pathologies.
Face à toutes ces avancées technologiques, on peut se demander quel sera le rôle du médecin et du kiné dans le futur. Ne risque-t-il pas d'être remplacé par des machines? C'est un peu angoissant, non?
Pas du tout. Je vois ça plutôt comme une collaboration. Les nouvelles technologies vont transformer le rôle des professionnels de santé, mais elles ne vont pas les remplacer. Au contraire, l'IA et les autres technologies vont leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, l'écoute, l'empathie, le diagnostic clinique, la prise de décision thérapeutique et le suivi personnalisé des patients. La technologie est un outil au service de l'humain, pas l'inverse.
Ouf, ça me rassure. Donc l'avenir du traitement des blessures de l'épaule, c'est une alliance entre l'expertise humaine et la puissance de la technologie.
Exactement. L'IA et les autres technologies sont des outils formidables, mais c'est aux professionnels de santé de les utiliser à bon escient en les intégrant dans une approche globale et personnalisée, centrée sur le patient.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'ai vraiment l'impression d'avoir voyagé dans le futur de la médecine. Et je suis sûr que nos auditeurs aussi.
Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir de partager ma passion pour la médecine du sport et de parler des innovations qui vont changer la vie des patients souffrant de blessures de l'épaule.
Et pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les références dans la description de cet épisode. Vous y trouverez les articles scientifiques, des sites web d'associations de patients et des informations sur les centres spécialisés dans le traitement des blessures de l'épaule.
Et surtout, n'ignorez pas la douleur. Si vous avez mal à l'épaule, consultez un professionnel de santé. Un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée, c'est la clé pour retrouver une épaule en pleine forme et continuer à profiter de vos activités sportives préférées.
Merci encore d'avoir participé à cette émission. Et à bientôt pour un nouveau Deep Dive sur un autre sujet passionnant.